Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Salut Félix. Mettons, Félix est vraiment maudit là, contre le président des États-Unis. Tu développes une obsession contre lui. Tu décides, pour toutes sortes de raisons, de lui envoyer du poison par courrier. Est-ce que tu mettrais ton adresse de retour sur l'enveloppe? Vous pouvez me rejoindre à cette adresse-là.
Oui. Non, il serait probablement là. Il y a très peu de risques que je fasse une erreur comme celle-ci, à moins justement, et comme la police le pense, comme Madame Ferrier, de présenter là certains symptômes qui pourraient nous laisser croire une maladie mentale. Évidemment, c'est pas nous qui l'affirmons, c'est la police. Alors effectivement, l'adresse de retour sur l'enveloppe de Pascal Ferrier, c'est assez spécial.
Et que moi, j'étais un fan fini de l'émission aux États-Unis qui s'appelait America's Dumbest Criminals, où c'était. Écoute, je me souviens une fois. Félix, avant de parler de choses sérieuses, j'avais fait un documentaire avec un réalisateur sur les frères Hilton, les boxeurs qui ont aussi défrayé la manchette judiciaire, beaucoup de troubles avec la justice. Et à un moment donné, à peu près deux choses, OK? Ils ont décidé de faire un hold-up dans un Tim Hortons. Or, qui se tient, pas dans un Tim Hortons, excuse-moi, dans un magasin de bang, OK? Un Dunkin' Donuts. Okay. Qui va manger des beignes? Des policiers, tu sais, c'est un cliché, mais souvent, bon. Alors, c'était rempli de policiers. Ils sont rentrés faire le hold-up et ils avaient sur le dos, ils avaient un petit coupe-vent écrit Hilton derrière.
Oh okay. My God!
Ils se sont comme fait pincer. Bref, écoute...
Pour finir l'anecdote des Hilton, j'habitais à un moment donné dans Saint-Henri, près du canal de la Chine, et puis il y avait dans Saint-Henri un endroit, un restaurant qui s'appelait la Maison du Egg Roll, qui est fermé maintenant, mais qui s'apprécie. Il faisait des bons Egg Rolls, puis comme plusieurs binneries de Saint-Henri, il y a une vingtaine d'années, ça coûtait pas, tu sais, c'était avant la gentrification, ça coûtait pas cher. Alors, on était une gang de gars, on va se commander beaucoup d'Egg Rolls, puis je pense qu'on avait vu grand, on a commandé une centaine d'Egg Rolls. Et là, l'ascenseur monte, et puis ça cogne à la porte. Et là, il y a un gars qui nous prend nos sacs d'Egg Rolls, puis il nous garoche ça à terre en disant « There's your fucking Egg Rolls ». C'était Alex Hilton. C'est lui qui... Là, c'est lui qui livrait. Là, est-ce que je viens de me faire me lancer par la tête des Egg Rolls par Alex Hilton? La réponse est oui.
Écoute, sa mère, je suis allé chez sa mère, Wilton, et elle avait plein de scrapbooks où elle gardait tout ce qui était publié dans le journal sur ses enfants, OK? Fait que là, elle avait ses scrapbooks, puis elle nous montrait ça, elle ouvrait, elle dit, ça, c'est quand Alex a gagné tel prix, puis ça, c'est quand l'autre, il a gagné tel prix, ça, c'est quand il s'est fait arrêter, puis il était en prison, puis tout. Elle gardait tout dans son scrapbook, même.
Elle a une rigueur dans son scrapbook.
OK, alors, une histoire qui a vraiment choqué totalement tout le Québec, c'est cette histoire de cette Atikamekw, là, mère de 7 enfants, qui est morte dans des conditions épouvantables.
Ouais, je t'en parle parce que c'est plus seulement le Québec là, que ça choque, là, c'est le Canada aussi, et c'est les États-Unis également, l'Europe, l'Angleterre, la France. On a parlé de cette histoire-là. Je regardais hier, puis moi je regarde souvent Sky News, donc le poste de nouvelles continue de la chaîne Sky en Angleterre. Ils en parlaient hier. CNN également en a parlé. France Inter en a parlé aussi. Évidemment, tous les réseaux canadiens de la mort de Joyce Echaquan, cette Atikamekw qui a péri aux mains de ses soignants, faut bien le dire, à l'hôpital de Joliette. Je te parle pour faire les suivis là-dessus. D'abord, on sait, là, on pourrait dire que les derniers développements, il y en a un qui vient de survenir, mais passons en ordre chronologique. Les derniers développements sont les suivants. François Legault a dû commenter l'affaire hier en offrant ses condoléances à sa famille, a affirmé qu'il y avait deux enquêtes en cours, celle du CIS et celle du coroner, et a confirmé que, et je pense que c'était un peu sans appel, cette phrase qui tombait, qui sortait de la bouche de M. Legault. Il dit, l'infirmière en question a été congédiée. Et quand il a dit ça, il avait l'air austère. Il avait l'air légèrement affecté par cette situation-là. La question dans tout ça, tu vois, elle va beaucoup, outre le racisme systémique et outre le traitement qu'on a, parce que c'est un autre angle de la question, mais il y a le premier angle. Est-ce que ça prend une enquête criminelle? Parce que au fond, Mme Échaquan, est morte, elle se plaignait de mauvais soins, là. Elle se plaignait d'avoir reçu une médication probablement trop forte ou encore inadéquate qui la faisait se sentir peut-être près de la mort, peut-être se sentait-elle dépérir et se plaignait de sa médication. Alors, est-ce qu'il y a une notion de négligence criminelle dans tout ça? Est-ce qu'il y a une des s'il y en a une, justement, faut-il que les policiers eux-mêmes se penchent aussi sur la question? Mais là, ça va faire comme il se passe au Québec souvent, on va avoir trois enquêtes en parallèle, une du CIS, une du coroner, une de la police. Mais ne devrait-on pas, maintenant que l'infirmière est congédiée, savoir si cette femme-là, comme autochtone, a reçu les soins appropriés?
Écoute,
les soins qu'elle a reçus l'ont-elles mené à la mort?
On peut se poser des questions, parce que tu sais, quand on les entend dire « t'es mieux morte, là, qu'est-ce que tu fais vivante, t'es mieux morte, tu coûtes cher au système et tout ça », tu te dis « bon, ces gens-là n'ont pas l'air à avoir la santé de la dame vraiment à cœur ».
Ben, alors justement, alors ça présuppose aussi beaucoup sur le reste et sur le type de traitement que madame a reçu. Et d'ailleurs que tous les Atikameks estiment recevoir ou presque à l'hôpital de Joliette, parce que tu sais que dans la deuxième portion de cette question-là, bon, il y a justement le racisme systémique, la commission vient, le sort qu'on réserve aux Autochtones. Tu sais que l'Assemblée des Premières Nations du Québec, du Labrador, avait convoqué c'est arrivé en même temps que l'Assemblée du Québec, Terre-Neuve-Labrador, convoquait une conférence de presse pour parler de la lutte à la discrimination envers les Premières Nations du Québec. C'est pas une coïncidence assez triste. Puis Ghislain Picard a rappelé que le rapport vient dénonçait un régime de racisme systémique à l'intérieur de l'hôpital de Joliette. Et là, je te parle de ce qui se passe de nouveau aujourd'hui, c'est que justement la commission vient probablement que dans ses courriels programmés a envoyé ce matin, et c'est mes collègues de LCN, Cindy Royer, Jean-François Guérin, que tout juste avant de te parler, je les ai vus nous montrer ce communiqué-là, qui est un communiqué de la commission qui vient de sortir, qui était probablement justement préprogrammé à l'horaire, là, des envois préprogrammés. Et ça dit commission vient, un an d'action, tu comprends, tambour, trompette, fanfare. Alors, c'est complètement déconnecté à ce type de propos-là aujourd'hui de la commission vient avec ce que vit et la famille Échaquan et ce que ont vécu ces communautés-là, là, surtout que dans le large contexte bien précis.
Écoute,
ils auraient pu se retenir un peu. Là,
c'est notre affaire George Floyd ici, vraiment, et ça démontre qu'il y a, oui, du racisme systémique envers les gens des Premières Nations. D'ailleurs, je rappelle aux gens qu'à la fin de cet après-midi, là, l'émission de Sophie, ma conjointe Sophie Durocher, elle va interviewer notre collègue Michel Jean de LCN, de TVA Nouvelles, qui, ça fait des années, justement, qui se bat pour une meilleure reconnaissance, en fait, des droits des Premières Nations, donc il va être là pour en discuter. Mais écoute, ça, c'est notre tâche originelle à tous, là, au Canada, la façon dont on traite les Autochtones, qu'on les case dans... Il va falloir revoir, à un moment donné, aussi la loi des Indiens, donc on les case dans des réserves. Écoute, Jonathan Trudeau, mon ami Jonathan Trudeau, qui me racontait à un moment donné qu'il est allé dans le Grand Nord québécois, puis qu'il a vu la façon dont les enfants là, étaient étaient traités, les enfants autochtones des Premières Nations là-bas, une petite fille qui préférait aller coucher dans la niche de son chien plutôt que rester dans sa maison parce qu'il y avait des problèmes d'abus, d'alcool. C'est des gens qu'on a déculturés totalement. C'est honteux la façon dont on traite les Premières Nations au Canada. Vraiment.
Et c'est aussi, à la limite, honteux la rapidité avec laquelle on oublie ces affaires-là. Parce que je comprends bien, puis Michel, c'est une bonne idée que Sophie Durocher puisse recevoir Michel Jean parce qu'il en parle avec éloquence des enjeux autochtones et puis il y est sensibilisé. Puis c'est une figure publique aussi, puis son discours a un tirando là dans la population. C'est bien, sauf que il reste que tous ces dossiers, c'est une impression que j'ai, mais il me semble qu'après en s'en être scandalisé, nous avons aussi l'oubli facile. Et c'est pas vrai qu'on parle de ça à chaque jour dans tous les médias au Canada pour une simple et bonne raison, peut-être, ou pas une simple et bonne, mais plutôt une simple raison, c'est que tu sais que les médias sont dans le produit, dans le contenu, sont taxés sur ce qui fait cliquer, ce qui fait vendre. Et la question autochtone, elle est extrêmement complexe. Et je suis pas sûr que tous les grands patrons de presse nous diront que c'est ce qui fait vendre.
Mais là, je pense
monter l'audimat le plus haut. C'est malheureux, c'est un constat très plat, très triste. Mais il y a un peu de ça aussi.
C'est un électrochoc et on se dit toujours quand il arrive des tragédies, on espère que cette personne-là n'est pas morte pour rien. Écoute, tu veux nous parler du tireur de Twitter, c'est quoi ça?
Ah oui, je vais te parler de ça. Ça se passe à l'étranger, ça se passe au Japon, mais c'est parce que c'est un fait divers comme on en voit peu. En fait, c'était aujourd'hui le début du procès du tueur de Twitter. Il est accusé d'avoir démembré 9 personnes. Voici comment Takahiro Shiraishi, 29 ans, fonctionnait, sa méthodologie criminelle. Ce à quoi il se prêtait, c'est un véritable jeu du chasseur et du chassé. Il appâtait des gens sur Twitter qui semblaient en difficulté. Alors, des gens qui menaçaient vouloir s'enlever la vie ou qui passaient un sale moment, quoi. Et il les attirait chez lui, des victimes âgées entre 15 et 26 ans qui avaient des tendances suicidaires. Alors, lui, il disait, ben, je peux vous aider. Je peux même dormir ou voire même mourir à vos côtés. Et il les amenait chez lui pour les tuer. Un matin d'Halloween 2017, quand la police est entrée chez lui, il y avait 9 corps démembrés, 240 morceaux d'os cachés dans des glacières, des bois. C'est vraiment, vraiment, c'est plus que scabreux. Je trouve que c'est presque nous, on a eu Luca Rocco Magnotta ici,
oui.
Qui s'est livré à des exactions incroyables. Mais alors, ça, c'est notre c'est probablement le pendant japonais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le frère d'une jeune fille disparue qui a permis de le retrouver. Le frère de la fille qui a disparu s'est connecté à son compte Twitter puis a remarqué un échange suspect entre elle et le tueur. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il profitait vraiment, vraiment.
De la détresse des gens.
De la détresse humaine. Quelqu'un qui dit « je veux en finir » puis se ramasse dans les bras de cette personne-là qui, lui... décide de la vie ou la mort. Il y avait 600 personnes qui ont fait la queue devant le tribunal. Il y avait juste 13 places de disponibles. 600 personnes qui ont fait la queue. Et tu sais qu'au Japon, quand je suis allé tourner là l'an passé, je me rappelais, on se rappelait un peu de tout ça. La peine de mort est encore pratiquée au Japon.
Oh,
et
oui.
C'est encore l'exécution par pendaison.
Ah oui?
Exactement. Puis tout ça ouvre la porte sur quelque chose de plus important. En fait, quelque chose qui sociétairement est plus important, c'est que le Japon a un des plus forts taux de suicide parmi les pays du G7. C'est 20 000 suicides par an.
Et de voir qu'il y a des gens comme travail. Ça qui... Oui, oui, le travail, ils travaillent comme des fous, puis ils font 3 heures de train des fois pour se rendre au travail. C'est énormément de pression, des pressions aussi pour performer à l'école, avoir d'excellentes notes. Donc, la vie est assez difficile au Japon. Et lui, il profite justement des gens qui sont en détresse pour essayer de les attirer et de les tuer. Merci beaucoup, Félix Séguin. Passe une excellente journée. Alors, Félix Séguin du bureau d'enquête. Et ce qui s'est passé à Joliette, là, on va en entendre beaucoup parler. C'est vraiment honteux et on a besoin de faire une prise de conscience au pays.